Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est pour ma première saison dans l'After. J'ai deux finales anglo-anglaises en Ligue des Champions. J'invite tout le monde au resto, j'invite les auditeurs, j'invite tout le monde.
Je souhaite une seule chose. Soit l'Allemagne va au bout, soit elle se fait sortir avant.
Bonsoir.
Alors Johan, bon, t'as l'habitude maintenant.
Merci François. Et ça fera 12 ans sans match de Coupe du Monde.
Salut Zizou.
Merci Zizou.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After sur RMC, 21h02. Fred Armel, Paulo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet à mes côtés jusqu'à 22h. Gilbert et Daniel seront là à partir de 22h, bien sûr, pour l'After. Et l'actualité Ligue 1, et parlons du Qatar. On en parle dans un instant du Mondial au Qatar avec les drôles de dames. Est-ce que ce débat fait débat, ce sujet fait débat également dans vos pays respectifs, Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre. Chez nous, bien sûr, plus on avance vers le Mondial, plus les consciences s'éveillent, j'ai l'impression. En tout cas, se font entendre. On va en parler dans un instant. D'abord les directs, pour vous dire que dans vos matchs qui vous concernent d'ailleurs, toujours 0-0 entre l'Angleterre et l'Allemagne, dernière journée de la Ligue des Nations, groupe 3, et 0-0 entre la Hongrie et l'Italie. Indirect également l'équipe de France Espoir qui est à Valenciennes, match amical face à la Belgique. Espoir sous les yeux de Jean Baumel. Salut Gibault.
Salut Nico, bonsoir tous à tous, salut les drôles de dames.
Salut mon ami.
C'est parti, salut Fred, c'est parti depuis 2 minutes 30. Bon, c'est un match amical, on rappelle que les deux équipes sont qualifiés pour l'Euro qui se déroulera en Roumanie et Géorgie le 9 juin, du 9 juin au 2 juillet, donc là en 2023. Et il y a peut-être des espoirs qui vont peut-être se retrouver dans la liste de Didier Deschamps. On pense à Wesley Fofana, entre autres. Il y aura peut-être des surprises, vu le nombre de blessés. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fait 0-0. Les Bleus qui ont fait un bon match, d'ailleurs, Amika, ils ont gagné en Allemagne vendredi dernier avec un but de Guiri qui est titulaire. Devant, il y a aussi Kalimundo, qui n'a pas trop joué avec Rennes parce qu'il était blessé. Donc voilà, c'est une équipe. L'équipe d'espoir, franchement, qui a fière allure. On aura l'occasion, durant le direct, durant ce match, de je vous dire un petit peu toutes les infos concernant les joueurs titulaires, notamment en attaque, je vous dis, donc Kalimundo et Guiri. À noter aussi Sofiane Diop. Voilà, donc c'est
très Ligue 1 quand même, l'équipe de France Espoir, encore.
Écoute, franchement, quand tu
Busto,
vois.
Diop, Lefay, Kalimundo, Guiri, Laroussi. Kéfren Thuram, Kakré.
C'est pas la Ligue 1, c'est Kouassi qui joue FC Séville. Non, franchement, même sur le banc, t'as quand même Chotard, Merlin, Chalky, Ngoumou.
Qui joue à Montpellier. À tout à l'heure, Gibault, pour ce France Espoir, Belgique Espoir 0-0 après 5 minutes de jeu. Donc, messieurs, le mondial au Qatar, je le disais chez nous, la tenue de ce mondial dans un pays où les droits de l'homme sont régulièrement bafoués. Je suis gentil, est un sujet brûlant, vous allez me dire si le débat existe chez vous. D'abord, je rappelle que ce week-end, donc, Amnesty International, qui n'appelle pas, aussi c'est important de préciser, au boycott, a publié un communiqué dans lequel elle explique qu'elle allait soutenir le Danemark et non la France dans le match qui opposait les deux sélections hier soir. Amnesty regrette un silence assourdissant de la FFF, à l'inverse des Danois qui s'engagent dans la défense des droits humains. Réponse de la FFF hier, qui dit être agacée d'être stigmatisée et explique, je cite, « Participer ne signifie pas fermer les yeux et cautionner et prétend créer un centre d'accueil pour les travailleurs immigrés et la création d'un fonds d'indemnisation. » On va travailler là-dessus et vérifier si c'est bien réel, bien sûr. Alors chez vous donc, est-ce un sujet de débat à moins de 2 mois du Mondial, Polo en Allemagne?
Oui, de plus en plus. Tu as dit que les consciences s'éveillent. Moi, je pense surtout qu'elles se réveillent. Le problème, c'est que je pense qu'elles se réveillent avec 12 ans de retard. C'est-à-dire qu'on a eu un débat ce week-end. Alors, si tu veux, tu viens d'expliquer comment Amnesty s'explique qu'ils soutiendront le Danemark par rapport à l'enfant. Enfin, je trouve ça, pour moi, c'est des adolescents quand tu réponds comme ça. Les enjeux ne sont pas là, mais c'est pas grave. Si tu veux, il y a eu un truc ce week-end, c'est dans la fameuse émission Doppelpass, dont je vous en parle assez souvent, où Lyonnais n'était pas invité. Il y avait Andreas Reti, qui est notamment un manager bien connu en Allemagne et ancien de la Ligue allemande de football, qui lui évidemment est fondamentalement anti-Qatar, on va dire ça d'une façon très simple, etc. Et Uli Hoeneß, il a pris son numéro de téléphone et il a appelé l'émission pour passer en direct. Donc ça fait grand débat en Allemagne. Il a eu des propos qui sont un petit peu délicats à comprendre, mais il se défend dans le sens où lui dit que de toute façon il faut commercer avec eux, Donc dans ce sens-là, il fait, j'ai envie de dire, il prend l'axiome du général de Gaulle, quoi. Les États n'ont pas d'amis, mais ils ont des intérêts. Et l'intérêt d'avoir le Qatar, c'est d'avoir du gaz, etc.
C'est donc la réalité.
Voilà. Surtout pour l'Allemagne, hein, vu leur dépendance au gaz.
Oui, mais au-delà de ça, c'est très intéressant. Le problème, pour moi, en Allemagne, donc il y a énormément, il y a des organisations qui sont en train de s'organiser justement pour essayer de faire que le boycott arrive ou qu'on prenne des décisions, etc. Il y a des anciens joueurs comme Philipp Lahm qui s'expriment. C'est marrant, mais lorsqu'il était capitaine de la sélection allemande, pour moi, je l'ai jamais vraiment entendu prendre fait et parti ou fait et cause pour des causes particulières.
Là, il a le droit. Attends, excuse-moi, il a le droit en mûrissant, en sortant du truc.
Je dis pas le contraire.
On a le droit d'évoluer dans la vie et d'être. Non,
mais j'ai pas de souci avec ça. Mais si tu veux, j'ai l'impression que ça sort du bois un petit peu comme ça au bon moment. Moi, je suis droit dans mes bottes avec ce niveau-là. Je voulais jamais que le Qatar achète le PSG. Donc ça fait 12 ans que je me suis fait engueuler par tout le monde, quasiment tous les journalistes français de Navarre, comme quoi j'étais le seul. Moi, j'ai décidé de plus aller au Parc des Princes à cause de ça, sauf lorsque RMC m'y envoyait parce qu'on jouait contre une équipe contre le PSG, jouait contre une équipe allemande, etc. Mais je laisse les journalistes qui ont passé leur temps à m'engueuler à se regarder dans la glace. La deuxième chose qui m'intéresse, si tu veux, c'est que on se réveille quand même très très tard. Et le problème du Qatar, je vais essayer de faire un petit peu d'humour, c'est que c'est Krypton le Qatar. C'est Superman, c'est la planète de Superman. C'est-à-dire dans 100 ans, il n'y a plus de gaz. Donc le problème, c'est que l'argent qu'ils ont aujourd'hui, ils doivent investir autre part pour créer d'autres actifs. Donc pour moi, la question, elle est là. C'est pas le fait de travailler avec le Qatar. Ensuite, on va pas découvrir à l'époque où on a donné la Coupe du Monde au Qatar, que c'est magouille et compagnie à la FIFA. L'Allemagne en est même elle-même à la Coupe du Monde 2006 est bien embêtée en ce moment par rapport à ce qui se passe. Et c'est comme ça depuis des générations et des générations. Donc moi, si tu veux, en ce moment, c'est très intéressant de voir les pour et les contre, et je cherche les arguments, mais je trouve qu'on est souvent dans un... j'ai l'impression qu'on est dans un baquet de sable en train de s'expliquer non, c'est pas beau, oui, c'est beau, non, c'est pas ceci, c'est cela. Non, je pense que c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est peut-être le départ à une véritable réflexion à ce qu'on veut dans le monde du football demain, tout en sachant, et là, moi, je laisse la question ouverte, je suis pas sûr que le football soit... ce soit le rôle du football ou des joueurs de football...
Ah ben justement.
Des joueurs de football d'être responsable de la politique d'un État, par exemple.
Fred, en Espagne.
Eh ben malheureusement non. Ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas. Il n'y a pas de débat.
Vraiment.
On en parle. On parle par exemple des actions des autres. On parle quand Lahm s'est exprimé, on en a parlé en Espagne. C'est-à-dire que la presse espagnole.
Je rappelle que Philipp Lahm, qui était également directeur de l'Euro 2024 en Allemagne, refuse d'aller au Qatar, car il ne cautionne pas notamment la politique en termes de droits humains, droits des travailleurs, conditions des femmes, mais qui regardait quand même les matchs devant la télé, c'est ce qu'il a dit.
Ouais. Et donc on avait relayé par exemple la pancarte qu'avait montré les joueurs norvégiens, par exemple.
Les Danois aussi.
Les Danois aussi. Voilà, mais on relaie, mais il n'y a pas de débat de fond. En Espagne, tu n'as pas de grande voix du sport espagnol qui se soit élevée par rapport à ça. Après,
nous on a Cantona en France, par exemple.
Tu vois, oui,
l'a fait.
Cantona. Au moins, les Espagnols, je les trouve honnêtes par rapport à une chose. Les Espagnols n'ont jamais mis le genou à terre pour Black Lives Matter.
Oui.
C'est-à-dire qu'on peut pas les accuser, ils se mêlent pas de ces choses-là. Peut-être qu'on peut leur reprocher de pas se mêler, mais enfin, ils n'ont pas d'indignation à géométrie variable. Ils s'indigneront jamais. Au moins, c'est ça. Parce que moi, quand je vois les joueurs français qui mettaient leurs genoux à terre, pour Black Lives Matter, très bien, ils ont le droit, mais qui n'ont jamais rien fait par rapport au Qatar et aux esclaves morts en construisant des stades sur lesquels ils vont jouer. Donc, les Espagnols, non, c'est pas vraiment un sujet. On traite l'information, mais il n'y a pas de débat comme il peut y avoir chez nous.
Johan, toi, en Italie.
Ben, on parle assez peu de cette thématique du boycott, comme Fred. Il y a assez peu de prise de position à ce sujet. Alors, c'est un cas un peu particulier déjà parce que autant en conférence de presse avec Didier Deschamps, il y a des journalistes français qui lui posent la question sur les actions éventuelles à mener au Qatar pendant la Coupe du Monde, si les joueurs auront la liberté d'exprimer leurs sentiments, etc. Bon, bah, l'Italie n'est pas la Coupe du Monde. Donc, déjà, il y a toute une partie de questions-réponses d'implication des acteurs principaux qui n'a pas lieu en Italie. Alors, évidemment, comme Fred, on a relié le travail du Guardian, d'Amnesty International, etc. La volonté de certains pays nordiques de boycotter le mondial. On n'a pas de Cantona, on n'a pas de Philipp Lahm qui ont pris des positions fermes sur notamment le boycott et qui l'ont partagé à de multiples reprises et pas simplement une seule fois. Je rappelle qu'en Italie, on organise la Super Coupe d'Italie depuis plusieurs années, alors hors Covid, en Arabie Saoudite. et que d'ailleurs des discussions sont en cours pour un nouveau contrat plus rémunérateur avec justement mon cher Fredo, un format à l'espagnol.
Demi-finale,
on peut pas dire que c'est ça, demi-finale finale. On peut pas dire que l'Arabie Saoudite soit un exemple de régime où l'humain est au cœur des considérations. On va le dire comme ça. C'est difficile ce sujet parce que il y a pas de solution miracle, boycotter, pas boycotter, y aller et dire,
regarder, pas regarder.
C'est difficile parce que moi je comprends ceux qui appellent au boycott et qui vont boycotter la compétition à leur propre échelle, c'est-à-dire personne lambda qui va pas regarder la Coupe du Monde par exemple. Et je comprends parce qu'en fait ils se disent que l'argument la Coupe du Monde va faire avancer les choses au Qatar. Maintenant, c'est plus recevable. Parce qu'on a bien vu que les conditions des travailleurs sont catastrophiques, que ceux qui avaient, souvenez-vous, manifesté récemment.
Il y a quelques sensibles évolutions, Johan.
On a fait un pas de 10 cm.
C'est bien,
minimum,
bravo.
Maintenant, les esclaves, ils ont plus 1 euro, ils ont 2 euros. C'est bien.
Oui,
bravo.
C'est ça.
Et quand ils meurent, leur famille doit toujours
repatrier les corps. Certains te diront, c'est déjà ça par rapport aux conditions de travail d'attribuer.
Pour moi, c'est pas un argument. Mais ça reste de l'esclavage. Donc,
Et la médiatisation de la réalité de ce qui s'est passé sur les chantiers, ça n'a rien changé. Il y a eu des dizaines de milliers d'articles, reportages, messages dans la presse, éditos, à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, pour à destination des vieux, des jeunes, de ceux qui aiment le foot, ceux qui n'aiment pas le foot, etc. Ça n'a strictement rien changé.
C'est pas ce que dit Amnesty International quand même. Ils expliquent quand même qu'il y a une évolution depuis le travail.
Ouais, moi je vois que les consciences
qui s'expriment.
Des travailleurs qui ont manifesté parce qu'ils n'ont pas reçu leur salaire et qui ont été expulsés du pays.
Et qui n'ont pas touché leurs 6 mois de salaire.
Exactement. C'est en ça que c'est difficile de prendre position parce que je. Mais moi qui suis un passionné de foot, c'est une vraie contradiction personnelle en fait. C'est que oui, on adore le foot. Bah oui, l'esclavagisme moderne est inacceptable. Et pour autant, qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qu'on fait, en fait, tout simplement? Et moi, mon truc là-dessus, c'est que comme j'arrive pas à prendre position, je me dis que l'idée, c'est peut-être pas forcément de prendre parti pour le boycott ou pas boycotter, etc., etc., parce que de toute façon, c'est trop tard. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'en parler pour au moins développer une conscience critique de cette situation
qui a été créée. Et tu sais, moi, franchement, je suis pas un grand fan d'Amnesty, mais on avait reçu ici dans l'after Lola Schulman, qui est la responsable au sein de
communication France, la communication internationale.
Et Lola Schulman expliquait bien, on va pas changer les situations, mais on demande simplement aux joueurs de montrer qu'ils ont conscience de ce qui se passe. Donc, et moi, j'aime beaucoup ça, parce que j'insiste là-dessus sur Black Lives Matter, qui concernait un truc horrible qui s'est passé aux États-Unis.
Un état permanent aux États-Unis.
Aux États-Unis. Mais les joueurs n'ont pas de
rapport avec la population. De la population. Non, en général.
Oui, bien sûr, oui, parce que c'était Floyd. Mais les joueurs n'avaient pas de contact direct avec les États-Unis. Là, les joueurs vont jouer au football sur des charniers où sont morts des esclaves. Donc là, il y a un truc direct, ils ne disent rien.
Oui.
Et c'est ça. C'est-à-dire, moi, ce qui me choque, c'est cet engouement extraordinaire, ce suivisme sur Black Lives Matter. Et là,
bon, les gars.
Mais là, c'est différent, Fredo, parce que ce que tu es en train de dire, c'est que soit tu prends parti pour tout, soit tu te tais à jamais. Et ça, moi, je trouve pas ça normal.
On va faire une pause. Il y a beaucoup de messages.
Il y a des faux arguments.
Polo, on fait une pause. Il y a beaucoup de messages, évidemment, sur Direct Studio. Certains nous disent, mais oui, mais le mondial en Russie, vous avez rien dit, ou très peu. Également, le mondial américain à venir, États-Unis, dans quelques années.
Que je sache, il n'y a pas d'esclaves qui construisent des stades aux États-Unis.
Dans un instant, je veux quand même savoir ce qui se dit en Angleterre avec Julien Laurence qui nous dira ça. Cédric sera là au 32-16 avec nous également pour en parler. Il est ouvert, bien sûr, le 32-16. Max est là au standard, 21h15. Vous écoutez Génération After. D'abord, les directs, toujours 0-0 entre 1-0 désormais pour l'Italie face à la Hongrie. Mon cher Johan, ça m'a échappé, le buteur.
But de Raspadori sur une sortie de balle ratée des Hongrois et une interception de Nyonto qui allait buter sur le gardien, et Raspadori a récupéré le ballon et a marqué.
Toujours 0-0 entre l'Angleterre et l'Allemagne après 30 minutes de jeu. Et les espoirs français face aux espoirs belges, Gibaud à Valenciennes.
0-0 le quart d'heure de jeu, 7 à 8 000 spectateurs, ça c'est sympa comme match. Franchement, ça va d'un camp à l'autre. On voit notamment du côté belge un Jérémy Doku, le Rennais, qui est très actif, très bon. Pour l'instant, même Goury est pas mal, mais ils ont du mal à se procurer la dernière occasion. en tout cas les intentions dans le jeu des deux côtés, bah, c'est intéressant et c'est pas étonnant de les voir toutes les deux qualifiées pour l'Euro 2023.
Allez, dans moins d'une minute, Génération After spécial Drôle de Dame revient sur RMC 21h17. On parle du Qatar et de cette Coupe du Monde qui se profile bien sûr dans moins de deux mois. A tout de suite sur RMC.
RMC 20h-22h Génération After.
Nicolas Jamin
avec Paulo Breitner, Julien Laurence, Yoann Crochet, Fred Armel. On est ensemble jusqu'à 22h. RMC 21h17, toujours 0-0 entre les Bleus, l'équipe de France Espoir et la Belgique Espoir. 0-0 entre l'Angleterre et l'Allemagne en Ligue des Nations. 1-0 pour l'Italie sur la pelouse de la Hongrie. Raspadori, l'Italie qui est en train de se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations, pour la finale à 4, pardon messieurs. 1-0 donc pour l'Italie après 30 minutes de jeu. Julien, je me tourne vers toi également. On parlait des débats autour de ce mondial au Qatar, de plus en plus aigu à l'approche de l'événement. Est-ce qu'en Angleterre, c'est un sujet ou pas du tout, comme en Espagne et en Italie ?
Non, nous c'est un gros sujet, bien sûr. Ah. Mais nous c'est un sujet depuis le départ, hein, depuis que le Qatar a été choisi ou a été voté. Je sais même pas comment on dit. Rappelez-vous, c'est quand même en Angleterre qu'on avait fait les plus grosses enquêtes sur, toutes les magouilles autour de du choix. Exactement, et du Sunday Times aussi, tout ça. Donc encore plus autour des droits des travailleurs et de tout ce qui se passe sur les stades qui sont construits. Forcément, il y a une grosse pression mise sur la fédération anglaise depuis maintenant plusieurs mois pour qu'elle réagisse pour qu'elle agisse plutôt même. Ce qu'elle fait qu'à moitié finalement, un peu finalement comme tout le monde quoi. Je sais pas si elle aurait envie de faire plus, si elle pense ne pas pouvoir faire plus. Mais c'est vrai que par exemple cette semaine, elle a fait un grand communiqué en annonçant que les joueurs allaient rencontrer des travailleurs immigrés une fois au Qatar. Je vois pas trop à quoi ça va servir, mais voilà, qu'ils ont essayé qu'ils encouragent effectivement à ce que les conditions de travail s'améliorent. Tout ça, c'est bien beau, mais encore une fois, c'est que des mots et pas vraiment des actes. Il y a le brassard porté ce soir, par exemple, par Harry Kane, le fameux One Love, le brassard contre la discrimination, etc., etc. Mais encore une fois, qui sert à rien.
Il sera porté par l'Angleterre au Qatar, parce que la France,
Non, je crois que la FIFA a pas encore donné l'autorisation. Ah oui, donc, oui. Je pense que les Anglais veulent le porter.
Oui, ils font partie de ces pays, des 6-7 pays français, européens qui veulent le porter. On est d'accord.
Mais par exemple, dans le communiqué de la fédération anglaise cette semaine, justement pour montrer un petit peu d'opposition au Qatar, il y a aucune déclaration de Gareth Southgate ou de Harry Kane, par exemple. Donc c'est la fédération elle-même. Mais si au moins tu avais la voix du sélectionneur en disant, bah voilà, on y va, mais il faut que les choses s'améliorent, il faut faire plus, mais rien. Encore une fois, donc c'est vrai que les Anglais sont très déçus par le manque d'action de leurs joueurs, de leurs sélectionneurs et de leur fédération.
Je vais accueillir Cédric au 32-16 qui nous a appelé. Salut Cédric.
Salut.
Bienvenue dans Génération Cédric. After Cédric.
Merci.
Alors, on t'écoute.
Ben moi, je voulais réagir par rapport à tout ça, en fait. Et moi, ce qui me fatigue un peu, c'est toute la démagogie qu'il y a autour de ce mondial. L'erreur, ça a été de leur donner dès le départ, en fait.
Bien sûr.
Pour le gaspillage de ressources qui va être monumental, pour la période aussi, parce que c'est pas une période c'est pas terrible quoi. Mais après les conditions des travailleurs, c'est dramatique, hein, je vous dis pas le contraire, c'est le nombre de morts, tout ça, on peut pas fermer les yeux sur ça. Mais on n'a pas entendu autant de personnes quand c'était au Brésil, parce qu'au Brésil c'est le nombre de morts, c'était aussi
les personnes déplacées,
tout autant dramatique en fait.
Comment en Afrique Russie, du Sud, les personnes déplacées, etc.
Oui, c'est pareil. La Russie en 2018, ils avaient annexé la Crimée depuis 4 ans. Personne en a parlé. En 2026, c'est aux États-Unis. Les États-Unis, ils ont aussi une politique étrangère un peu spéciale.
Oui, mais il n'y a pas d'esclaves aux États-Unis.
Oui, d'accord. C'est vrai, mais quand même.
Oui, bon, on peut parler de la condition de travail, de vie des immigrés mexicains aux États-Unis.
On est d'accord, mais elle sera jamais aussi horrible que celle d'un immigré du Soudan ou du Bangladesh au Qatar.
Ça... Vas-y, Cédric.
Et donc, oui, moi, c'est ça qui me dérange un peu, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a du mal avec les nouveaux riches, en fait. On n'aime pas que des peuples, des pays qui n'existait pas au niveau médiatique il y a 20 ans.
Le Qatar n'existait pas il y a 55 ans déjà, tu vois.
Ouais, voilà. On a du mal avec ça en fait. Et moi c'est ça qui me dérange. Pourtant je suis pas je les défends pas. Hein. C'est pas pour les défendre. Moi, je suis pas pour non plus cette compétition.
Je me disais, pourquoi stigmatiser le Qatar alors qu'on n'a rien dit pour la Russie voilà, en 2018, non, le Brésil.
Ce que dit Cédric est très intéressant, mais c'est là où on oublie toujours l'histoire.
Merci, Polo.
C'est-à-dire, non, mais c'est vrai parce qu'on est toujours en train de juger l'instant T. Et d'ailleurs, on juge toujours l'histoire avec nos yeux d'aujourd'hui. C'est un truc insupportable, mais c'est bon. C'est souvent comme ça.
Ah, ça, ouais.
J'ouvre une parenthèse. Il est fort possible que des grandes nations fassent un parcours dégueulasse au Qatar juste parce qu'elles veulent se barrer très rapidement. Il y a un exemple très important, c'est la RFA 78, donc en Argentine de Videla. Les Allemands ne voulaient pas rester. Ils sont fait éliminer au deuxième tour très rapidement. Au revoir, quoi.
La dictature de Videla,
exactement. Donc ça. Et il y a un argument, par contre, que moi j'accepte pas, c'est que, par exemple, on dit oui, mais regardez, on a bien donné la Coupe du Monde à tel pays dans ces pays-là avant, etc. Et, ou par exemple les Jeux Olympiques de 36 en Allemagne, etc. Donc ça, pour moi, c'est un non-argument, parce que ça voudrait dire qu'on ne peut pas avancer, entre guillemets.
Et
que l'histoire est fleurie, l'histoire est bloquée. Et, mais ce que dit Cédric me semble très important, parce que il faut regarder un petit peu l'histoire, et savoir aussi que le foot professionnel, comment il est, est utilisé médiatiquement, au sein de la propagande par les États, depuis des années. On va parvenir à l'Italie des années 30, sous Mussolini, etc., comment il fallait gagner le tournoi, etc. Mais ça a toujours fait partie du truc. Sauf qu'on a toujours... Moi, je ne supporte pas l'argument de dire « Ah oui, mais regarde, avant, il s'est passé ça, il s'est passé ça. » Je suis tout à fait d'accord avec Cédric sur le fait qu'on n'a rien dit sur l'Union soviétique, sur la Russie, mais aussi, malheureusement, parce que la puissance de la Russie, du Qatar, c'est pas celle de la Russie. Ça, c'est l'indignation à géométrie variable, évidemment. C'est toujours plus facile de taper sur, entre guillemets, un petit pays par rapport à une grosse puissance qui a l'arme nucléaire. Mais ces choses-là, en fait, font que beaucoup d'arguments... C'est comme j'ai vu, là, pour l'équipe de France, soyez des héros par rapport au Qatar. Mais en quoi les joueurs de l'équipe de France doivent-ils être des héros? Parce qu'ils sont pas d'accord. Déjà, la notion de héros me perturbe beaucoup lorsque j'entends ces associations qui sont contre le boycott, qui sont pour le boycott, etc. Ce sont des choix individuels pour les joueurs. On peut se rappeler Dominique Rocheteau en Argentine, etc. Ou on peut se rappeler ce qui est les boycotts, les différents boycotts qu'il y a eu en Union soviétique aux Jeux Olympiques ou en 84 aux États-Unis. Mais c'est vrai que la réflexion, elle doit être globale et pas juste. Mais je voudrais aussi dire quelque chose. C'est pas toi, Nico, ni moi, ni les drôles de dames, ni Cédric qui pouvons faire grand chose. C'est-à-dire que c'est compliqué. C'est pas dire la FIFA.
On peut constater des choses. On peut constater les indignations à géométrie variable de certains. Et ça, c'est une réalité.
Moi, ce qui me dérange, c'est aussi le fait que ce soit récupéré à des fins politiques. Et il y a des associations qui font sûrement très bien leur travail. Hein. Je remets en doute ce qu'ils font pour les droits de l'homme dans certains pays. Mais t'as l'impression que ça leur donne un sentiment d'exister, en fait, de parler de cette compétition.
C'est nous qui les avons existé aussi beaucoup en ce moment. Peut-être qu'on les fait pas exister autrement. Mais je pense qu'Amnesty, comme Human Rights Watch, travaille beaucoup sur tous les terrains, tous les pays.
Cette Coupe du Monde, elle est hautement politique. C'est-à-dire que le Qatar a besoin d'exister. Économiquement, Polo l'a bien expliqué,
oui, mais diplomatiquement aussi.
Et diplomatiquement, c'est-à-dire que c'est une Coupe du Monde géopolitique. Mm-hmm. Ça, mais le Qatar, ils n'en ont rien à foutre du foot. Hein.
Allez,
on finit, Polo.
Cédric, il y a un truc, il ne faut pas que tu oublies. Depuis l'arrivée du Qatar en France, il y a des gens qui ont été achetés, des lobbyistes, pour expliquer que tout est merveilleux au Qatar. On a des amis en commun, d'ailleurs, qui ont été appelés par le Qatar, qui voulaient leur filer des chèques pour leur dire que c'était merveilleux ce qui se passait, etc. Et ces gens-là, on les a aussi reçus sur les plateaux télé, médias, radio, etc., pour qu'ils nous expliquent que tout est formidable. Ulioness, en ce moment, est en train de se faire traiter en Allemagne de messager du Qatar. C'est-à-dire que
notre plus grand joueur de l'histoire française était dans le coup.
Mais tout à fait. On n'empêche pas Guardiola, Zidane ou Guardiola, ces choses-là. Je veux dire, il y a des autres périodes de l'histoire où on pourrait se poser des questions si ce ne sont pas des collaborateurs. Je mets ça entre guillemets, évidemment. Ces débats n'existent pas parce que c'est M. Zidane, il est intouchable.
On est obligé d'expliquer.
Bon.
On va donner les informations.
En 20 secondes.
Zidane, parce que je vais poser la question pour le livre que j'ai écrit sur lui. Je lui ai posé la question sur l'argent qu'il a pris là-dessus.
Je rappelle qu'il est ambassadeur de la Coupe du Monde.
Il m'a expliqué que lui, au départ, ce qui l'intéressait, c'est qu'il avait, parce que les, en fait, le Qatar était venu le voir à la fin de sa carrière en 2006 pour lui proposer, avec Ronaldinho, d'aller jouer dans un club qatari. Il avait refusé, mais il trouvait ça intéressant que le football se développe dans cette zone du monde. Alors après, l'intérêt, et ce que je sais, et c'est prouvé, c'est que oui, il a touché quelques millions pour participer à la promotion de la candidature du Qatar à la Coupe du Monde, mais ça a financé la fondation qu'il a en Kabylie, en Algérie, une fondation humanitaire.
D'accord.
Bon. Mais je fais simplement, c'est simplement pour préciser à quoi a servi l'argent que Zidane a gagné au Qatar.
Cédric. Après, on peut les financer autrement, les fondations.
Complètement. Mais là, j'apporte simplement cette information-là.
Mais juste que le débat est très complexe, c'est pas bien juste sûr, un truc
bien
comme
sûr.
Ça.
Bon, les gars, on a beaucoup d'appels au 32, vous imaginez, c'est un sujet polarisant, extrêmement sensible, beaucoup de messages en direct studio. On va prolonger quelques minutes et évoquer également la place des footballeurs. Faut-il leur demander d'avoir un avis sur les questions politiques, géopolitiques, sociétales ou non? En tout cas, la ministre des Sports française a dit que non. Cédric, merci d'avoir appelé, d'avoir fait le 32-16. Merci. Bonne soirée à toi, Cédric.
Merci, bonne soirée.
Tu reviens quand tu veux sur RMC. Je voudrais qu'on parle de Benjamin Pavard aussi, qui s'est livré avec honnêteté. Il a parlé de sa dépression pendant le confinement en Allemagne. On va en parler parce que, bien sûr, c'est pas un cas isolé. Les footballeurs ne sont pas des êtres à part. On en parle dans un instant dans Génération After sur RMC 21h27. À tout de suite.